Vous l'entendez ? L'appel de la forêt. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série d'émissions autour du bois du chat. L'épisode va se passer en gros entre fin 2022 et mars 2023. Retour après un long hiver bien agité, c'est le printemps, et Corinne et Angelo ont répondu à l'appel et ben je les remercie. Bonjour.
Bonjour.
Merci Corinne.
Bonjour.
Merci Angelo. Je vous ai invité parce que j'aimerais bien que vous nous aidiez à mieux comprendre ce qui se passe du côté de Tarnac. On m'a dit qu'il y aurait une sorte de chat qui se balade dans les bois. Est-ce que tu l'as vu, toi, ce matou, Corinne ?
Non, je n'ai pas vu le chat dans le bois, mais j'ai entendu ce matin, encore en passant, faire le petit tour de garde rituel de tous les matins.
D'accord.
J'ai entendu tous les oiseaux.
Ah, donc voilà. Ça veut dire que quand même il est là, mais... Ça continue à vivre, très, tant mieux. Et Angelo, est-ce que tu peux nous le décrire en deux mots, toi qui habites pas loin ?
C'est une forêt de feuillus, principalement chênes et hêtres.
Mais toi, tu l'as rencontré comment en fait ? C'est surtout ça en fait.
Moi j'habite dans le coin depuis 2008. Donc c'est une forêt qu'on ne peut pas rater parce qu'elle est, coupée en deux par la route Tarnac-Perlebad. Il faut dire que ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le bas du chat aujourd'hui, c'est ce qui reste d'une grande forêt de feuillus sur cette pente de la vallée de la Vienne, qui était coupée déjà. Et moi, je l'ai découverte plus intimement, disons, à partir de 2015, quand j'ai commencé à faire du VTT, pas mal.
D'accord, ok.
Et donc j'y passais
régulièrement
à vélo. Et si je le fais maintenant, il y a toute une partie où je serai beaucoup plus visible à découvert, donc ça serait beaucoup moins intime. Mais il y a encore le bois du chat, donc qui reste.
On va en parler, très bien. En fait, oui, on va d'abord écouter Guillaume, donc, qui représente le collectif de défense du bois du chat, et on en discute un petit peu après.
Alors, ce qu'on appelle la forêt du bois du chat, c'est la forêt qui est juste en dessous du lieu-dit bois du chat, en bord de route. C'est cette magnifique forêt que tous les habitués du coin connaissent. À la sortie de Tarnac, on fait 2 km et on arrive dans cette grande hêtraie. Une hêtraie, une chêneraie, avec un peu de houx, de part et d'autre de la route. Quand on arrive de Tarnac, c'est la parcelle au-dessus de la route, à droite, et qui est concernée directement par les travaux de coupe rase qui vont commencer. C'est une forêt qui est celle qui est à droite de la route, donc, la forêt la plus jeune, celle qui voudrait couper. C'est une forêt qui a à peu près 75 ans, qui est une régénérescence naturelle, spontanée, d'anciennes prairies qui se sont ensauvagées. Et par endroits, on voit encore les vieux arbres de bordure qui, eux, ont plusieurs centaines d'années. Et certaines parties sont des forêts plus anciennes, enfin, c'est quand même une assez grande surface. De l'autre côté de la route, directement, donc du coup, tout ça étant vraiment au bord de Vienne, mais celle qui va, la forêt qui va jusqu'au Ripisil, a été répertoriée dès le milieu du 19e siècle. On voit c'est une partie de l'entrée de Tarnac qui a déjà été considérablement rasée. On voit les dégâts juste avant cette forêt, où il y a eu des coupes rases vraiment jusqu'au bord de l'eau, jusqu'à la Ripisil, qui a été entièrement replantée en résineux.
Merci Guillaume, qui était interviewé par Simon. Corinne, toi tu es arrivée il y a peu de temps finalement sur le plateau, et j'aimerais bien avoir ton ressenti un petit peu, parce que tu t'es pas mal baladé dans ce bois, et qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu
Moi je suis arrivée il y a 3 ans sur le plateau, mais ma famille est originaire de Tarnac et de Perlevade, donc c'est dire à quel point je connais la route entre Tarnac et Perlevade. Cette forêt pour moi c'était un endroit absolument fantastique, particulièrement l'été, parce que quand on a connu le plateau il y a plus de 60 ans maintenant.
C'est ton cas.
C'est mon cas. Avec ses landes et ses tourbières, ses bruyères, ses genêts, et puis ses zones de feuillus extraordinaires. Et qu'on revient longtemps après et qu'on retrouve la montagne noire, un peu avec les résineux de part et d'autre. Cette forêt représentait quelque chose, une espèce d'oasis de paix. Et quand on prend la route de Tarnac à Perlevade en particulier, tout le monde la connaissait. C'est pour ça que ça a été d'ailleurs si facile de rassembler les gens, parce que tout le monde voyait l'été cette zone extraordinaire d'ombrage, cet endroit où on pouvait s'arrêter au printemps, écouter les oiseaux, ce ruisseau qui descend jusqu'à la Vienne avec son bruit magnifique. Et voilà, pour moi, elle représente vraiment beaucoup, et je n'ai pas été surprise de voir que c'était le cas pour beaucoup de gens autour de nous et à Tarnac, bien sûr.
En plus, il y a un chouette chemin de randonnée. Donc, ça fait partie vraiment des atouts de cette région à Tarnac, en tous les cas. Très bien. Angelo, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment se fait-il qu'on se trouve dans une zone Natura 2000 et qu'il va s'y passer quelque chose d'un petit peu anormal?
Alors, c'est quoi que tu appelles quelque chose d'anormal?
Eh bien, justement, cette mobilisation dont on va parler, qui a commencé fin novembre.
Mais est-ce que
tu peux juste nous expliquer la zone Natura 2000, ça marche comment? C'est vécu comment ici, sur le PNR Millevaches?
Alors justement, parce que je pensais que tu allais me parler d'une coupe rase en zone Natura 2000, ce qui malheureusement n'est pas quelque chose d'anormal dans la région. Les zones Natura 2000, c'est un programme européen de préservation des zones naturelles, quoi.
Bah alors, donc, tout va bien, on arrive à préserver ces zones naturelles.
Alors, l'exemple du bois du chat montre que non. Donc aujourd'hui, vraisemblablement, on peut faire des coupes rases en zone Natura 2000. Des coupes rases qui impactent les sols, qui impactent l'eau. Là, on est à un endroit où on est en pente dans la vallée de la Vienne, un endroit où la Vienne est assez jeune. Donc voilà, c'est des zones qui sont en théorie protégées. En pratique non. Et d'ailleurs, il y a une question écrite à la Commission européenne qui porte justement sur ça. Comment ça se fait qu'on peut faire des coupes rases en zone Natura 2000.
D'accord. Et la Natura 2000, c'est en France seulement ou ça va au-delà?
Non, c'est européen. Enfin, c'est partout en Europe.
C'est partout en Europe. OK. Moi, ce que j'ai entendu dire, et tu vas peut-être me le confirmer, Corinne, c'est que beaucoup de gens aiment ce bois aussi parce qu'on y trouve des choses.
On y trouve beaucoup de choses. On y trouve beaucoup de choses. Ce qui, d'ailleurs, nous a un petit peu déstabilisés, c'est que des experts, entre guillemets, sont venus entre novembre et février faire des repérages sur le bois des espèces qui y vivent. Et bien sûr, ça n'était pas la meilleure période. Ouais. Heureusement, on avait des constats tout à fait officiels déjà, d'espèces de chiroptères. Donc les chiroptères, pour être précis, c'est ce que nous appelons nous les chauves-souris. La vallée de la Vienne est une région extrêmement riche en espèces de chiroptères. Et il y avait dans le bois du chat 7 espèces qui avaient déjà été répertoriées par le groupement mammalogique et herpétologique du Limousin, qui avait fait un travail sur l'ensemble des parcelles de la commune et qui citait le bois du chat dans son rapport. Sur ces 7 espèces, 3 sont en voie d'être classées, protégées, menacées de destruction en Europe et en France. Elles sont extrêmement rares, donc le murin de Bechstein par exemple, qui niche dans les vieux hêtres la plupart du temps, et qui a besoin en plus pour se déplacer de beaucoup d'espace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire on va se contenter de préserver quelques vieux arbres pour qu'ils puissent nicher, mais il a besoin pour chasser énormément d'espace autour de lui. On a fait une première sortie le 21 décembre dernier avec la LPO, qui évidemment à ce moment-là n'a pas trouvé toutes les espèces qu'on avait l'habitude d'entendre dans le bois du chat, mais avec le printemps qui arrive, eh bien, on retrouve les grimpeaux, les citelles torchepeaux, énormément d'espèces d'oiseaux protégées, les griffes d'renne, ça gazouille partout dans le bois du chat. Et voilà, on arrive à la période de nidification. Donc je crois que c'est important de dire, allez, c'est terminé.
On met sur pause, hein, comme on entend en ce moment. D'accord. Mais il n'y a pas que les animaux, il y a aussi certains végétaux, des champignons.
Alors il y a des champignons, bien sûr. Alors il faudrait plus d'une heure pour expliquer le rôle des champignons et des mycorhizes, qui sont donc les champignons qui se développent dans le sous-sol pour alimenter les arbres. Il y a des lichens extrêmement rares. Là, je crois qu'il y a il y a quelque temps une émission avec le champ des possibles de Jean Sioux qui a dû aborder tous ces sujets. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des houx, ce qui montre d'ailleurs que c'est une forêt déjà ancienne.
Ce qu'on appelle une étréa houx,
c'est oui, ça ? Oui, c'est ça. Mmh. Et puis il y a aussi des promeneurs, des randonneurs, ouais. Des cueilleurs de champignons, dont le passage dans la forêt se fait dans le respect total, en général, de ses habitants et de ses espèces végétales.
C'est ce qu'on essaye de faire à l'appel de la forêt, réunir les habitants et la vie en forêt, de passage, ou pour aussi prélever du bois, évidemment. Enfin, on va en parler, plus précisément. Pense. Alors bon, vous aimez ce bois. Moi, j'ai eu aussi l'occasion de m'y promener. J'ai bien apprécié le lieu. Et voilà. Du coup, ça m'a fait penser à ce que Louis Chédid chante avec le bois de son cœur.
Dans le bois de mon cœur, il y a des tas de petites fleurs qui poussent en toute saison, défiant les lois de la création. Dans le bois de mon cœur, rêves et vagues à l'âme, pour tutoyer les étoiles, il n'existe pas coin plus idéal. À l'abri du ressac quotidien qui nous détraque, bien trop souvent, de ces images qu'on nous montre, ces horreurs qu'on nous raconte. À tout bout de champ, dans le bois de mon cœur, je m'en vais voir ailleurs. L'herbe est toujours plus verte quand on la regarde du bon bout de la lorgnette. Papillon dans le ciel, toutes les pensées qui me viennent, je les accroche à des noirs, des blanches, des soupirs, des silences, des doubles croches et du bois de mon cœur. Mes pigeons voyageurs s'envolent à tire d'air vers celles ou ceux qui veulent bien d'eux, dans leur monde intérieur, dans leur monde intérieur, dans le bois de leur cœur.
Louis Chédid, c'est vrai qu'on a tous en fait un bois où on aime se réfugier. Si on vous décrit le bois du chat, c'est aussi parce qu'il s'est passé ça. Alors ça, c'était fin novembre 2022. Alors qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, Corinne ?
À partir de ce moment-là, on s'est retrouvés spontanément, un certain nombre d'habitants de Tarnac, pour alerter. Parce que là, on était tous sidérés. On avait vu d'abord la rampe de débardage qui avait été créée, qui faisait déjà une plaie dans la forêt. Et puis, on s'est dit que ça préparait quelque chose de très mauvais pour cette forêt. Et ce qui nous a été confirmé par le premier hectare qui a été donc rapidement abattu par des bûcherons. On s'est retrouvés tous autour de la table un jour à Tarnac en se disant bon, on ne peut pas laisser ça faire, c'est pas possible. C'était un peu la coupe rase de trop qui s'annonçait parce que le plateau souffre d'une quantité invraisemblable de coupe rase et ensuite de plantations de plantations de résineux qui sont tout sauf des forêts, il faut avoir ça en tête. Une forêt de feuillus, c'est une forêt. Il peut y avoir aussi des forêts de résineux, bien sûr.
Ou mélangées.
Ou mélangées, ce qui est encore mieux. Mais là, on savait que ce qui attendait le bois du chat, c'était une plantation en ligne de résineux pour l'industrie. Et on savait aussi toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir. Donc, on a décidé de créer un collectif spontanément.
Vous étiez combien au départ
Au départ, on était 7 ou 8, pas plus. Mmh. Et puis,
tous habitants Tarnac, en fait.
Oui, alors sauf moi qui suis juste à la frontière, mais dont les racines sont à Tarnac.
Oui.
Des racines, quand on parle de forêt, c'est important. Oui. On s'est retrouvés, effectivement, après, je dirais, une quinzaine de vraiment très actifs en permanence pour créer un événement, sensibiliser déjà les habitants de la commune et puis créer un événement qu'on a organisé le 21 janvier ensuite.
Avant ça encore, on a tout de suite, même avant de se réunir, quelques-uns ont tout de suite contacté des techniciens du PNR, qui ont eux contacté les exploitants et les propriétaires pour leur demander de suspendre le chantier, le temps de vérifier le dossier.
D'accord.
Donc la première chose qui a été faite, c'est le PNR qui a suspendu le chantier.
Donc ça, c'était fin novembre, donc ce qui fait qu'il y a eu
décembre, je me souviens plus.
Ouais, un hectare qui a été, on va dire, coupé, un peu plus même d'un hectare, je crois.
Environ un hectare.
Environ,
avant cet hectare qui a été coupé, il y a déjà pas mal d'arbres qui ont été coupés pour faire la rampe d'accès.
Donc ça dépasse, quoi. D'accord. Donc là, ça s'est passé comme ça, une alerte. Vous avez attendu quoi, la décision du PNR comment ça s'est enchaîné ?
Je crois qu'on n'a pas non plus attendu la réponse pour s'organiser, parce qu'on savait qu'il fallait très vite, très très vite organiser, donc on s'est un peu réparti la tâche, ceux qui se sentaient plus à l'aise avec l'organisation d'un événement, ceux qui avaient un petit peu l'habitude des questions juridiques, ceux qui étaient très très près de la commune de Tarnac pour essayer, des élus locaux pour essayer d'avoir des réponses à nos questions, puisque non seulement Tarnac est en zone Natura 2000, mais également en zone de protection spéciale.
Pas toute la commune.
Pas toute la commune, mais le bois du chat, oui.
D'accord. Voilà. Donc ça, c'est intéressant.
Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et voilà, on s'est un petit peu réparti les tâches, et tout en se disant que sans attendre les réponses du PNR, qu'on a senti d'ailleurs un petit peu bien à l'écoute cette fois-ci, je dois dire, sur le sujet, on a décidé de s'organiser. Oui.
D'accord. Donc vous avez déjà pressenti que ça n'allait pas forcément se passer dans la partie de préservation. On est parti pour une exploitation, c'est bien ça.
Voilà. En réalité, c'est l'intérêt d'une petite commune, c'est qu'on se connaît tous. Et puis, on savait aussi que les propriétaires, parce qu'il va falloir quand même à un moment en parler, les propriétaires du bois du chat n'étaient pas des gens foncièrement à l'écoute. Capable de prendre en compte les questions environnementales, puisqu'il s'agit de personnes qui gèrent à distance, depuis Paris, les hectares de forêt qu'ils possèdent. Je crois que c'est plus de 500.
D'accord. C'est loin d'être anecdotique.
C'est pas anecdotique.
Ouais. C'est 500 en tout. Ils ont en gros 250 hectares de forêt, 250 hectares de terres agricoles.
D'accord. Donc, tout ça, géré à distance, c'est vrai que ça paraît un petit peu délicat quand on n'est pas sur place, je reconnais.
Et quand la gestion financière prévaut sur la gestion de l'environnement.
Bon, d'accord. Bon. On va parler un petit peu de ces différents enjeux économiques, environnementaux, bien sûr. Voilà, donc ça, donc fin novembre, on essaye de faire un petit peu l'historique de tout ça, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et moi, ce dont j'ai eu l'occasion donc, de me joindre à vous le 21 janvier. Angelo, donc qu'est-ce qui s'est passé le 21 janvier ? Gros rassemblement sur le bois du chat, dans la zone du bois du chat, avec des défenseurs de ce bois, et donc du collectif qui s'est créé donc quelques semaines avant, c'est ça ?
Oui, alors avant ça, il y a déjà eu un rassemblement,
d'accord.
Une balade naturaliste avec, avec des naturalistes.
Donc
notamment
Fred et Elsa qui étaient avec nous il y a quelques semaines. D'accord.
Et des gens de la LPO.
D'accord.
Donc ça, c'était un premier rassemblement, si on veut, sur site, pour aller voir un peu... Qu'est-ce que c'est comme forêt d'un point de vue naturaliste aussi,
ouais.
Et aussi pour montrer à ceux qui ne connaissent pas la forêt, pour leur montrer cette forêt.
Mm-hmm.
Et ensuite, on a fait un grand rassemblement le 21 janvier, donc,
ouais.
Sous la neige.
Oui.
Donc il y avait énormément de neige, donc je pense qu'on était plus que 100, mais on aurait pu être beaucoup plus.
Oui.
Mais pas mal de gens ne sont pas venus parce que c'était très difficile de rouler ce jour-là. Et voilà, c'était un rassemblement pour dire stop quoi, pour dire que maintenant, les couperases, et notamment les couperases de feuillus...
Donc il y a vraiment une motivation collective là, qui s'est créée.
Oui.
Elle était déjà là, mais là, bon, plus de 100 personnes sous la neige.
Du plateau, quoi.
Du plateau, donc ça...
Et donc des gens qui connaissent ce genre de scénario, quoi, qui connaissent le problème, parce qu'on le vit partout sur le plateau, et les gens le vivent chez eux. Donc,
donc là...
Ils sont venus pour défendre le bois du chat, parce que c'est une forêt magnifique, mais aussi pour défendre les forêts du plateau. Quoi.
Ouais. Oui, ça m'a fait penser un petit peu à ce qui était vécu il y a 3 ans autour de Truffy, où donc c'est près de Faux-la-Montagne, où là, par contre, il y a eu un rassemblement, mais face à des coupes déjà faites.
Déjà faites, ouais.
Donc là, c'est sûr qu'on se situe un petit peu, et heureusement, en amont, avant la coupe. Ok, donc le rassemblement, donc on va dire que donc fin janvier, courant février, il y a eu d'autres événements en fait après ce rassemblement sous la neige.
Il y a eu quand même 2 tentatives de reprise du chantier.
Ah.
Après.
D'accord.
Et j'ai pas la chronologie en tête, mais une première fois les bûcherons sont venus le matin, un lundi matin autour de 7h, et les défenseurs du bois étaient là à plusieurs dizaines pour les accueillir avec du café et du thé.
Ah, c'est ça, cette première. Oui.
Et leur demande...
Là, c'était vraiment, on va dire, de façon apaisée, quasi amicale en fait. Ou comment vous avez été, comment ça s'est passé le dialogue avec les bûcherons là, à ce niveau-là ?
Alors, quasi amicale, je sais pas, parce que c'est quand même une situation assez difficile pour nous, mais surtout pour eux. Hein.
Oui.
Enfin, il faut savoir que c'est des
ils sont là pour travailler.
Oui, ils sont là pour travailler. C'est vraiment le bas de la chaîne, donc c'est de la sous-traitance quoi.
Oui.
Donc ils sont payés à la journée, donc évidemment voilà. Il faut savoir que le contact avec eux, il a été pris, enfin on a essayé de prendre contact avec eux plusieurs fois avant, on a réussi à le faire par des personnes intermédiaires, donc eux, ils savaient notre point de vue, on savait qu'ils étaient assez touchés par ça aussi,
d'accord.
Qu'a priori, ils n'avaient pas envie d'intervenir,
mais on leur demandait de le faire.
Mais on leur demandait de le faire, donc on était là avec du thé, du café, on a discuté avec eux, la personne en charge du chantier d'argile était là aussi, qui était, elle, beaucoup moins amicale, disons. Mais donc, on leur a demandé de partir. Et ils sont repartis. Il y a quand même il y avait plusieurs dizaines de personnes, d'habitants du plateau, qui sont venus à ce moment-là, spontanément. Spontanément, on leur a demandé de venir, mais qu'on su se mobiliser vite, disons.
D'accord.
Donc ça, c'était une première fois.
Et la deuxième fois,
c'était...
On a un petit enregistrement, c'était le 1er mars, et on va écouter un enregistrement qu'on a repris avec nos amis de Télé 1000 Vaches.
Les bûcherons, c'est trop tard, on est avec vous, on ne peut pas laisser faire ça. Il y a d'autres manières de faire. Tout ça, cette manière-là, elle est terminée, elle est révolue, et c'est malheureux, et c'est comme ça.
Vous êtes sur un terrain privé. Ensuite, vous opposez au droit du travail. Vous êtes donc en infraction.
on vit du bois, on se chauffe au bois, on apprend même à faire.
Je comprends tout ce que vous dites. Voilà. Ce que je vous dis là, c'est que la filière bois va se rassembler. La semaine prochaine, ils viennent en nombre. C'est ce que vous voulez, c'est quoi? C'est une confrontation?
Non, justement.
Alors, cette confrontation, est-ce qu'elle a eu lieu?
Alors, d'abord, parce que ce qui est annoncé là comme une confrontation, ça, c'est par rapport à la semaine ou 10 jours après ce 1er mars.
Donc, 1er mars. Donc, il y a eu en fait reprise des travaux, mais qui a été stoppée grâce à la présence du collectif ou de certaines personnes.
Alors là, encore une fois, ils voulaient reprendre le chantier.
Oui.
On l'a su, on était là le matin à plusieurs dizaines. Donc, il n'y a pas tout de suite eu de reprise de chantier.
Mmh.
Et quand les gens ont commencé, enfin les habitants ont commencé à repartir, on s'est aperçu que des bûcherons, une nouvelle équipe de bûcherons, avec des gendarmes, on pénétrait sur le terrain par une autre voie.
Mmh.
Et ils ont commencé à mettre une rubalise à l'arrache et à couper quelques arbres. Et donc là, il y a eu des coups de sifflet, des gens qui étaient dans le bois. Donc
on a bien entendu.
Tout le monde est monté. En gros, on leur a dit d'arrêter. On s'est même pas interposé, on est juste venu vers le chantier. Mmh. Et assez vite, ils ont arrêté. Ils ont eu le temps de couper 4 arbres. Donc c'était vraiment assez enfantin comme action, quoi. C'était il faut vraiment gratter 4 arbres de plus.
Ouais.
Encore une fois, je tiens à dire que c'était une autre équipe de bûcherons, mais qui eux n'étaient pas, enfin nous on n'était pas hostiles aux bûcherons et eux non plus, enfin ils comprenaient pas très bien en fait
ce qui se passait.
Et ouais, assez vite ils ont arrêté aussi, enfin il y a eu pas du tout de confrontation avec les bûcherons, ni vraiment avec les gendarmes, hein. Il y a eu des discussions vives avec les gendarmes,
oui, ça s'entend,
mais finalement
ce sont les gendarmes qui ont arrêté pour des raisons de sécurité, c'est ce que j'ai lu ensuite dans la presse, c'est ça?
Oui, enfin il y a sûrement le commandant de la gendarmerie qui a dû dire d'arrêter, mais c'est évident, on peut pas faire un chantier d'abattage avec des gens dedans, donc en gros une deuxième fois tentative de reprise de chantier, les habitants sont là pour défendre le bois.
D'accord. Donc là, on peut dire petite victoire. Mais donc, quelques jours après, il va avoir lieu donc, cette manifestation du 6 mars. Mais avant cela, on va écouter un petit peu une musique qui va nous rappeler ce bois.
Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être le chat, tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être le chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, me toujours rester à toi. Prendre des minchafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines.
Moi vouloir être un chat et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi.
Tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa. Je te montrerai de quoi
est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera
C'était l'appel de la forêt sur Radio Vassivière. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode. À bientôt.